Les contes sont inspirés par le sol même, une sorte de sens qui en émane, une vérité qui naît du regard patient de l'homme sur les choses, sur les lieux et les êtres de son univers familier. La légende est ce qui permet à l'homme d'habiter le monde.
Salut à vous, vous êtes sur Erdiwa 107.5. La pensée des peuples observe la lumière, celle qui émane d'une personne, d'une envie, d'une émotion ou de la nature elle-même. Sanglots de lumière. Quand je commençais mon chant, la forêt se vida. L'éclair traversa les loges de fougères pour illuminer l'unique admirateur caché dans un sanglot de lumière. Dans le silence baigné d'une immense splendeur, une barque surgit, couverte de larmes et de merveilles. Les douleurs s'entrechoquaient et une chaîne de soupirs me serra la gorge. Le chant se fit sauvage, azuré. Un rayon de soleil entra dans mes yeux. Et je crus voir tous ceux qui m'aimaient, agenouillés sur la mélodie. Savaient-ils pardonner les rêves ? La première lumière. Au commencement des temps, avant encore que naisse la plus ancienne de toutes les légendes, notre mère, la Terre, était sous le charme du grand sommeil. Le monde était perdu dans le noir, tout enveloppé d'obscurité, comme s'il avait été avalé par une grande vague d'encre de Chine. Pas un son ne trouvait le silence absolu. Sans doute, la Terre ne se serait-elle jamais réveillée, n'eût été un certain petit nuage blanc. Il se fit qu'un beau matin, il ouvrit les yeux. Ne voyant rien que du noir, il abandonna son foyer nordique et se mit lentement en route vers l'est, cherchant son chemin à tâtons. Bientôt le voilà en danger. À l'est, un terrible nuage noir menaçait. C'était le gardien du grand sommeil. Lui seul pouvait percer les ténèbres du regard. Il restait toujours sur le qui-vive, à l'affût du moindre mouvement dans les parages. Dès qu'il aperçut le nuage blanc tâtonnant pour se frayer la route dans le ciel, il souffla comme un chat sauvage et s'élança à la rencontre de l'intrus pour le punir. Ils se heurtèrent juste au-dessus du pays indien. Le nuage noir tomba à bras raccourcis sur son frère blanc, lui assena une grêle de coups. L'intrépide petit nuage blanc ne perdit pas courage et résista fermement à l'attaque. Seul le grand Manitou sait comment se serait terminée cette histoire s'il ne s'était pas passé une chose étrange, sans précédent. Dans cette lutte acharnée, les deux nuages se mirent à transpirer, tant et si bien que les gouttelettes de sueur s'agglomérèrent et, en fin de compte, se mirent à faire la pluie. Cette eau céleste fit naître la vie au pays indien. Les animaux se hâtèrent d'abandonner leurs cachettes souterraines, où les tenait emprisonnés le grand sommeil. L'onde, en tombant de si haut, fit dans la terre un grand trou par lequel ils sortirent tous. On eût pu croire qu'ils allaient alors vivre dans la paix et le bonheur. Ils se répartirent les terrains de chasse, depuis la plaine immense jusqu'à la frontière du pays des neiges, en traversant tout droit les montagnes et les cols. Avant peu, chaque créature avait bâti sa maison. Il manquait pourtant encore quelque chose en ce monde. Une chose que personne n'avait jamais vue, la lumière. Tandis que tous abandonnaient au grand sommeil, les esprits l'avaient emportée, si bien que le monde entier était dans les ténèbres. Fort heureusement, un lambeau du nuage blanc était resté là-haut dans le ciel. Il se sentait si épuisé après son grand combat qu'il pouvait à peine remuer. Alors il appela à la rescousse ses amis, le nuage bleu et le nuage jaune. Le nuage bleu habitait bien loin de là, à l'extrémité méridionale du monde. Le nuage jaune, lui, vivait à l'occident. À l'appel du nuage blanc, ils se réveillèrent et volèrent vers leur ami, aussi vite que le vent pouvait les porter. En guise de discours de bienvenue, le nuage blanc leur exposa la situation. Le monde s'est réveillé de son grand sommeil. Maintenant, il a besoin de lumière. C'est pourquoi je vous ai appelé à l'aide. Nous devons éclairer le pays indien. Oh là là, ça va nous fatiguer, protesta le nuage bleu. Moi, je crois qu'il m'est difficile de rester longtemps à la même place, ajouta le nuage jaune. Qu'à cela ne tienne, notre lumière est de toute façon si faible qu'elle ne pourrait suffire à personne. Faites ce que je vous demande, et bientôt vous le verrez, nous pourrons voguer dans le ciel à notre fantaisie, dit le nuage blanc d'une voix décidée. Ses amis ne protestèrent pas davantage. Descendant aussi bas que possible, ils lancèrent de toute leur force les rayons de leurs lampes colorées vers la terre. Ainsi, au moins, une petite lueur éclairait vaguement le monde. Mais les animaux savaient bien qu'ils se trouvaient alors devant leur première tâche difficile, apporter la vraie lumière. Le monde sera moins sombre le jour où chacun acceptera la lumière qui émane de l'autre. L'étreinte sexuelle est créatrice d'étoiles. Elle revit l'aube du monde. Sa création voit naître le premier soleil. L'homme et la femme se placent dans sa lumière, sous sa protection.
Après. Les mains pleines, je t'emmène lancer des médailles dans l'eau bleue des fontaines et cueillir à nouveau ces visions qu'on s'offrait autrefois comme des couronnes. Ces visions qu'on s'échangeait pour se dire, pour se rappeler, je suis veilleur, tu es musée. Je veux sentir les feuilles de menthe craquer sous nos dents avec la chlorophylle qui s'échappe et te faire écouter le son de carillon que fait le claquement des drisses de pavillon contre les mâts avec en fond le grand fracas de la mer qui rapporte et au-dessus la procession de cargo des nuages bas et blancs. Je voudrais te faire rencontrer les femmes cyprines et les vol queens qu'elles nous habillent de robes et de diadèmes au croisement d'Amsterdam et de la 80e pendant que moi je te mettrai au poignet des bracelets de tissu qui deviendront des bracelets de fleurs puis des rubans puis des violons. Je porte le blason de mon clan, je l'ai désormais gravé sur la face visible de mon cœur, mais ça ne fait pas mal, rassure-toi au contraire. J'ai fait broder nos souvenirs étincelants sur deux manteaux de nuit que m'ont offert des frères qui se rendent à pied canu. J'ai à la main mes ossières, je suis prêt.
Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes lumières.
Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène plonger dans la Seine et nager dans les courants forts de Beauchamp, nager dans les rivières, remonter les ruisseaux, puis prendre un bain brûlant où je laverai ta peau au lait d'anès avant de sécher ton corps moi-même comme avant quand on était adolescent. Je veux faire l'amour dans les champs, dans les clairières, dans les taxis. Je veux faire l'amour partout, même sur les toits de Paris. Je veux résider au creux de ton cou et dans tes draps parfumés au lilas, tandis qu'une madrée enveloppée d'un châle rouge baigne nos fronts en silence avec des croix de baume au camphre. Je te montrerai comment décrocher les boules blanches des symphorines pour les éclater sous nos pieds et entre nos doigts avant d'aller regarder la lumière des lampadaires qui rougeoient et qui vacillent sur les berges du fleuve endormi, dont les risées de vent emplissent la surface. Je veux offrir cette cigarette à ma mère, cette cigarette d'après la guerre et son odeur vanillée. Je t'emmène voir le granit rose de ces îles qu'on peut pas déplacer, mais c'est pour nous protéger. Je t'emmène tout rejouer, peut-être tout perdre, mais peut-être aussi tout rafler, tout braquer, tout gagner.
Après la nuit, avant le jour, et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai.
Les hautes lumières. Aux innocents, les mains pleines, je t'emmène voir Tolède, Cavour, Sienne et Navonne. Toucher la faïence des rues de Lisbonne et le marbre blanc lissé brillant des palais. Je veux entendre les salams des chauffeurs et qui nous crient: les enfants, je vous emmène à Orléans si ça vous plaît. Je veux t'offrir le tintement des couverts d'argent contre le cristal et les mots précieux des miens. Je veux écouter les histoires des anciens encore et encore, ces histoires millénaires qui renaissent. On s'est connus il y a 3000 ans, on se retrouve maintenant et nos enfants feront de même. Je t'emmène loin des griffes de la colère, loin des regrets, loin des nausées. Je t'emmène loin de la barbarie et des odeurs de kérosène brûlée. Je t'emmène courir après des filles, après des garçons, après des rêves et contempler les vivants, ces gens qu'on croise parfois, qui nous font tomber amoureux pour deux, pour trois. On doit encore parcourir la terre, on doit trouver 100 000 sœurs et 100 000 frères pour plus jamais être seuls dans les cimetières. Alors sur la colline du Palatin, par-dessus les domes byzantins, bientôt nous serons postés. Nous armerons nos flèches de diamants pour devenir sagittaires et décrocher les hautes lumières.
Après la nuit, avant le jour et à travers. Je t'offrirai les hautes lumières après la nuit, avant le jour et à travers les roselières. Après la nuit, avant le jour, je t'offrirai les hautes.
Approchez vos mains de la flamme. Approchez vos mains de la flamme jusqu'à voir le feu au travers, avec ses courants et ses lames, et ses sirènes aux yeux verts, jusqu'à voir les grands fonds du feu avec leurs poissons de sommeil, et les longs navires sans yeux, leur équipage de soleil, et leurs forêts d'algues de paille qui flambent et brillent au fond du feu, prisonniers des mains et des mailles, au tremblant filet de vos yeux.
La luciole.
Le soleil s'endort, les ténèbres rampent.
La luciole dort, allume sa lampe.
Dans le vent léger, quand l'enfant sommeille,
la luciole veille pour le protéger.
Les bambous abaissent leurs cils vers les eaux.
Les oiseaux se pressent dans les filets là-haut.
Rêve la fauvette près du lac muet.
La nuit est colombette, bientôt tout sauter.
La cigogne berce ses jeunes enfants.
Le butor traverse le lac en pêchant.
Dans l'onde scintille l'étoile du soir.
La luciole brille, valsant dans le soir.
La luciole danse sur les araignées.
Tournoie et s'élance vers les bananiers.
De sa voix puissante, le coq chante enfin.
Sa luciole éteint sa lampe tremblante. Et le soleil.
Dans le matin frais et charmant,
maman étend du linge blanc.
Et lorsqu'enfin le jour décline,
maman rentre la toile fine.
Bébé demande en la palpant:
où est ton clos du linge blanc?
Le soleil est venu la boire.
Vraiment, je ne peux pas le croire, dit bébé. Personne n'a vu Monsieur Soleil quand il l'a bu.
Le lendemain, bébé transporte une jatte d'eau près des fleurs.
Puis caché derrière une porte, il guette le soleil buveur.
me demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, oh reviens soleil, soleil. Jusqu'à trois et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, on revient soleil. On ne va pas tous mourir. Entre les braises on marchera et la nuit noire nous embrassera. On pourra tous partir. On pourra tous partir.
La lumière est le refuge de l'âme. Elle lui infuse le rayonnement de l'esprit. Accompagne-moi sur les chemins sombres de ma vie, pour pouvoir enfin trouver la lumière à tes côtés. La Vierge de la Lune et la Vierge du Soleil. C'était il y a longtemps, bien longtemps. Si longtemps que nulle mémoire sans doute ne s'en souvient. La Lune et le Soleil, alors, ne brillaient pas si haut dans le ciel, mais vivaient plus bas, tout près de la terre. Et personne ne sait plus aujourd'hui que la Lune et le Soleil étaient deux ravissantes jeunes filles, dont on aurait difficilement pu dire laquelle l'emportait en beauté sur l'autre. Il suffisait alors de lever les yeux pour pouvoir contempler à loisir les vierges célestes. Quant aux enfants, il ne se passait pas de jour qu'ils ne trouvassent une échelle pour aller rejoindre les deux jeunes filles dans le ciel. Le ciel, enfin, que vous en dire, tout était si beau qu'aucun mortel n'avait jamais vu semblable merveille. Le sol était jonché de nuages moutonneux de soie blanche, des nuages bleutés servaient de rideaux, et quand le soir descendait, la Vierge de la Lune allumait les étoiles pour que les hommes voient clair en bas sur la terre. Lorsque parfois le soleil et la lune descendaient sur la terre, la reine des fleurs elle-même, la belle pivoine, refermait ses fleurs, honteuse qu'elle était, devant la splendeur des vierges célestes. Comment s'en étonner ? La lune et le soleil ne portaient-elles pas habits tissés de nuages blancs, diadèmes d'aurore et foulards d'arc-en-ciel scintillants. Cependant, ni l'une ni l'autre n'en tiraient vanité, au contraire. Elles étaient charmantes et serviables. Elles soulevaient de temps en temps les rideaux bleus du ciel pour jeter un coup d'œil au dehors et bavarder un peu avec les humains. Mais c'était les enfants qu'elles préféraient. D'ailleurs, tout ce petit monde ne les laissait guère en paix. Dès qu'ils le pouvaient, les enfants grimpaient se balancer dans les airs sur quelques nuages duveteux. Et la lune leur cueillait souvent des bouquets d'étoiles pour éclairer leur chemin du retour. Mais rien n'est éternel dans ce monde. Un jour, parut sur la terre un homme méchant à l'âme plus noire que la nuit la plus noire. Et voilà que cet homme se hissa un beau matin dans le ciel. Il déchira les tentures, piétina les tapis blancs. Savez-vous même ce qu'il osa faire encore ? Il vola à la lune son plus beau foulard d'arc-en-ciel. La colère des deux jeunes filles fut terrible. Le soir même, elles allèrent s'installer très haut dans le ciel. Le lendemain, à leur réveil, les enfants levèrent les yeux au ciel. Mais où sont donc passés nos amis célestes ? Alors ils se mirent à crier très fort, pleurant et appelant sans relâche. La lune eut pitié de ses enfants chéris, et elle descendit pour jouer avec eux. Mais soudain, le méchant homme surgit et attrapa la lune. Et rien à faire pour la lâcher. C'était le comble de l'audace. Dès que la Vierge Soleil aperçut la scène, elle sortit ses aiguilles de sa tête et commença à piquer et à transpercer les yeux du misérable, qui lâcha enfin prise. Mais jamais plus depuis ce jour, la Vierge du Soleil ne rentra ses aiguilles, et malheur à qui ose la regarder droit dans les yeux. Elle pique et transperce impitoyablement. Quant à la Lune, elle ne peut oublier le monde et surtout ses enfants bien-aimés. Aussi, à la nuit tombée, elle se glisse doucement dans le ciel, regarde par les fenêtres des maisons et caresse de ses rayons un peu froids les cheveux des enfants endormis.
Tu es ma lumière du jour, tu es mon ultime recours. Et je t'appelle au secours, perdu dans la nuit qui m'entoure. Et comment vivre dans un trou noir? Moi j'ai besoin d'y voir, tu es ma lumière du jour. Tu es mon ultime amour. Si je t'appelle, tu accours. Tu es mon premier secours, ma lumière du jour.
Ça me tient chaud l'hiver. Je me suis acheté une veste comme l'année dernière. J'ai fini mon assiette. Je ne suis pas seul sur terre. Et j'ai un téléphone qui fait de la lumière. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Et on a encore la dalle. Alors on va manger la lune. Car après tard, car après tout, on peut se nourrir d'espoir. J'ai un chien, comme l'année dernière. Ma veste se démode, je la laisse à l'abbé Pierre. J'ai mangé mon assiette, j'ai remis le couvert. J'ai goûté au futur, il a un goût amer. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé le ciel. Valais les pépins, j'ai dévoré l'ennui, mais j'ai encore faim. J'ai léché les trottoirs, la faim jusqu'à la fin. J'ai voulu arrêter, mais je me suis bouffé les mains. On a mangé le soleil, on a mangé les étoiles, on a mangé. mange le ciel et on a encore la dalle, alors on mange la lune. Car après cap, car après tout, on peut se nourrir d'espoir.
Solé et Ménulis. Avec ses yeux lumineux et ses joues rouges, Solé, la déesse soleil, ressemble à une paysanne décoiffée, car ni chignon, ni tresse, ni foulard ne parviennent à discipliner sa chevelure de flamme, d'où s'échappent toujours quelques flamèches. Mais, à la différence d'une paysanne, la déesse porte des vêtements éclatants. Resplendissant de lumière, Solé traverse le ciel, couronne d'or sur la tête et souliers d'argent aux pieds. Solé travaille durement, chaque jour. À l'aube, dès que l'aurore, sa servante, a attelé ses chevaux, elle sort des flots pour parcourir le ciel dans toute son étendue, avant de replonger le soir dans l'océan. Et le lendemain, elle recommence. Les deux chevaux de Solé sortent de l'eau en nageant. L'un a une selle d'or, l'autre des brides d'argent. Solé ne connaît guère le repos, sauf parfois en hiver, quand elle parvient à s'enfoncer dans les nuages pour faire une petite sieste. Mais dès le mois d'avril, elle est là, elle rayonne dans le ciel, tôt levée, tard couchée. Elle appelle les hommes au travail, elle les surveille, elle les encourage. Les hommes savent qu'ils ont besoin d'elle, de sa chaleur et de sa lumière. Lève-toi, Solé, à l'aube, réchauffe-nous dans nos champs, de notre peine et pitié. Le soir, couche-toi à temps. Un jour, Percunas, le père de Solé, dieu du tonnerre et de la foudre, l'appela pour lui dire « Ma fille, je suis content de toi, tu es une bonne travailleuse. Pourtant, le travail n'est pas tout dans la vie. Que dirais-tu du mariage ?»« Si telle est votre volonté, mon père, » répondit Solé avec modestie. « J'ai pensé t'offrir comme époux ce bon gros garçon au visage joufflu, au teint pâle, mais Ménulis, » s'écria étourdiment Solé. Puis craignant d'en avoir trop dit, elle rougit. Aussitôt régna sur la terre une chaleur épouvantable, et deux ou trois déserts se formèrent. Percunas sourit. « Je vois que ma proposition te plaît. Il s'agit bien de Ménulis, le dieu lune. La nuit, il marche dans le ciel à petits pas. Il éclaire les voyageurs de sa lanterne. Il accompagne les morts dans l'au-delà. Ce sont des personnes tranquilles, et Ménulis ne se fatigue pas. Entre nous, je le crois moins courageux que toi, mais qu'importe. Il ne risque guère de s'amuser en ton absence, puisqu'il dort le jour pendant que tu travailles. » Les noces furent célébrées en grande pompe, bien au-delà de l'océan. Il vint des invités de tous les coins du monde. Et, selon la coutume lituanienne, chacun reçut un cadeau. Le silex eut l'étincelle, le cerf ses bois, le pin sa robe d'aiguilles vertes, et l'on glissa un anneau d'or à la patte de chaque alouette. Les premiers temps de leur mariage, Solé et Ménulis furent heureux. Ils s'arrangeaient pour passer quelques bons moments ensemble, à l'aube ou au crépuscule. Ils eurent pour enfants tant d'étoiles qu'ils ne parvenaient plus à les compter. Peu à peu, cependant, Ménulis prit l'habitude d'emmener avec lui, sur les routes du ciel, ses filles étoiles. Il partait de plus en plus tôt, sa lanterne à la main, tandis que Solé, à peine rentré, s'écroulait de fatigue. Mari et femme ne se retrouvaient plus ensemble. Solé gronda Ménulis qui ne brillait pas le jour, et Ménulis répondit « Tu as le jour, j'ai la nuit. » La déesse soleil alla trouver Percunas, son père, pour se plaindre de son époux. « Nous nous voyons à peine, quand je sors il dort, quand je rentre il est déjà parti. Il me délaisse, bien plus il me prend mes enfants, mes petites étoiles chéries, ne joue plus à côté de moi. » La voix de la déesse tremblait de colère, tandis que de grosses larmes coulaient de ses yeux. En tombant sur la terre, elle se transformait en fleurs, pâquerettes, marguerites, tournesols qui ont la forme de la roue céleste et dont les pétales rayonnent autour d'un cœur d'or, comme celui du soleil. Percunas écouta sa fille, la renvoya chez elle avec de bonnes paroles et convoqua son gendre. Il lui fit part des reproches que lui adressait Solé.
Comment ? S'exclama Ménulis. Comment ne comprend-elle pas que si j'amène avec moi les étoiles, c'est pour qu'elles puissent se reposer ? Ces petites filles sont si nombreuses et si turbulentes que j'ai moi-même bien du mal à les supporter. Mais que ne ferais-je pas pour ma chère femme ? Percunas, rassurée sur la conduite de Ménulis, réussit à réconcilier le soleil et la lune, mais pas pour longtemps. Solé revint trouver son père. Cette fois, elle ne pleurait pas, ni larmes ni colère. Une voix éteinte, un visage pâli, caché derrière ses longs cheveux. Une véritable éclipse de soleil. Sur la terre, il se mit à faire sombre et froid. J'en suis sûre, il me trompe. Avec l'aurore, ma servante. Elle peut se faire belle, elle a tout le temps de se pomponner. Une fois qu'elle a attelé mes chevaux, sa tâche est terminée. Tandis que moi, à travailler toute la journée, oh, c'est trop facile de tomber amoureux d'elle. Percunas ne plaisantait pas avec l'honneur familial. Il se leva, prit son tonnerre et ses éclairs, et repoussa sa fille qui suppliait. « Pas trop fort, mon père, ne le frappez pas trop fort. » Le maître du ciel alla se cacher derrière un nuage. Il attendit l'infidèle. Dès que Percunas le vit, il lança sa foudre sur la blanche figure épanouie. Celle-ci se fendit en deux. Ce qui explique pourquoi la lune apparaît, souvent sous la forme d'un croissant. Solé, elle, toujours amoureuse, désespère de rejoindre Ménulis un jour. Mais, en bonne travailleuse, elle continue à parcourir le ciel, d'un bout de l'année à l'autre, du levant jusqu'au coucher. Tous les jours, Solé se lève, dans l'arbre couleur de feu. Avant de trouver cet arbre, tous les jeunes seront vieux.
J'ai le vertige, tu me prends la main. D'ici là, la terre est loin. C'est si grand que mon cœur est plein. Je sais pas si je vais mal ou bien. On nous dit que le ciel est sans fin. J'avoue, j'y comprends rien. Je suis seulement du genre humain. Je sais pas ce que je ferai demain. Et nous, assis là sur la lune, nos cigarettes fument des cratères et des dunes. Et sous, assis là sur la lune, nos cigarettes fument, nos chagrins se consument. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils, et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, satellisé sans sommeil, en veille, jusqu'au prochain soleil, en veille, jusqu'au prochain soleil. Dans ton repère anti-narcisse, tu m'enlèves et me hisses. Et de là-haut, tout rapetisse mes peurs et mes cicatrices. C'est doux, assis là sur la lune, à penser l'amertume. Nos pensées ne font qu'une. Et sous, assis là sur la lune, à sceller fortune, nos chagrins se consument. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils, et vu d'ici, la nuit n'est pas pareille. Serre-moi jusqu'au prochain soleil, satellisé sans sommeil. En veille jusqu'au prochain soleil. Ah, serre-moi jusqu'au prochain soleil. Serre-moi juste assez que je veille. La nuit portera ses conseils, et vu d'ici,
La femme soleil. Le soleil est une femme qui passe parmi nous, caressant d'une main vive ou d'un geste plus doux. Quand elle a rayonné pour chacun des vivants, elle prend le chemin qui va en descendant. Jadis, elle fit une promesse qu'elle honore encore, celle d'illuminer le grand pays des morts. Ils l'attendent debout, s'assemblent, puis se reculent, ralentissant sa marche vers le crépuscule. Ils invitent Dame Soleil à rester avec eux. Sa chaleur fait tant de bien aux âmes des plus vieux. Elle les réchauffe alors un par un, puis s'éclipse pour reparaître le lendemain matin. Chaleur précieuse au milieu de leur nuit, souvenir ravivé du monde, de leur vie. Elle reçoit alors le cadeau le plus doux, la peau rouge flamboyante d'un kangourou. Elle la revête, puis poursuit son chemin. Au matin, elle apparaît portant la cape des anciens.
Profitons de la lumière présente de l'aube au crépuscule.